Avec Stéphanie Di Giusto, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présente pour le Festival du film francophone de Bienne et vous êtes là pour présenter Rosalie, votre deuxième long métrage. Alors j'ai déjà lu un petit peu la source d'inspiration, mais en fait j'aimerais que vous me confirmiez que vous avez travaillé sur cette histoire incroyable d'une femme à barbe qui s'appelait Clémentine Delay et qui vous a inspiré pour ce long métrage.
Oui, tout à fait. En fait, c'est une femme à barbe très célèbre début XXe siècle. Et en fait, quand j'ai vu ce visage féminin avec une barbe, tout de suite, ça m'a fascinée. Et bizarrement, j'ai trouvé qu'elle avait une grâce, en fait, un secret à explorer. Et en fait, ce que j'aimais beaucoup chez Clémentine Delay, c'est qu'elle a refusé d'être un banal phénomène de foire, en fait. Et qu'elle a voulu tout de suite avoir une vie de femme, d'être ancrée dans la vie. Et c'est ça qui m'a beaucoup touchée. Après, je me suis intéressée à d'autres femmes atteintes d'hirsutisme. Et très vite, j'ai voulu prendre d'elles que ce qui me touchait. Je ne voulais pas faire un biopic. Rosalie n'est pas un biopic. En fait, j'ai inventé le destin de Rosalie. C'est le destin, en fait, d'une femme qui se libère en assumant sa barbe, mais j'ai surtout voulu explorer les sentiments. J'ai voulu raconter une histoire d'amour absolue, une histoire d'amour sans condition. Voilà.
Sans condition, mais au début, il y a quand même des a priori parce qu'il y a le poids de la société, le regard de la société, les commentaires aussi des anciens soldats qui étaient sous les ordres du mari que Rosalie épouse. Et justement, au début, il y a quand même une discrépance. Elle est fraîche, elle est spontanée, vous la faites jouer comme ça par Nadia. Vous avez choisi justement qu'il y ait ce clivage au début.
Oui, complètement. En tout cas, moi, je voulais un personnage solaire qui déborde, plein de vie. Et c'est ça qui est beau dans le personnage de Rosalie. J'ai pas du tout voulu en faire une victime. Et en fait, c'est une femme voilà, qui s'affranchit en affrontant le regard des autres et qui affirme sa féminité singulière, en fait, contre les a priori et les diktats de l'époque. Donc c'est ça qui m'intéressait. Et en fait, finalement, je trouvais qu'il y avait une émotion à la fois pudique et violente dans le destin amoureux de ce personnage hors norme. Je savais que finalement, la banale romance, ce n'était pas pour elle. Elle n'en a pas envie et elle n'en a pas le droit. Donc, je pense qu'avec un personnage aussi particulier, l'amour devient encore plus fort que l'amour, finalement. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est transcendé, tout à fait.
Stéphanie Di Giusto, l'époque à laquelle vous situez ce film et à l'époque à laquelle Clémentine Delay a vécu, c'est une époque où il y avait quand même aussi le « quand dira-t-on ». Si on avait une apparence différente, on pouvait être assimilé au mal. Hein, il y avait quand même le poids de l'Église aussi. Et là, on sent aussi qu'il y a un chef d'usine qui est un peu usurier, interprété par Benjamin Biolay. Qui a aussi une attirance pour cette femme,
oui,
mais qui ne l'assume pas.
Mais évidemment. Et oui, pour remettre le film dans son contexte, on est en 1875, 5 ans après la guerre franco-prusse. Donc il y a un climat de suspicion totale. On espionne l'autre.
On est meurtri.
On est meurtri aussi. Et surtout, c'est la révolution industrielle. C'est le début du capitalisme social. Et donc, voilà, et c'est ce qu'incarne Benjamin Biolay dans le film. C'est ce patron qui veut. En fait, finalement, avoir cet esprit un peu familial avec ses ouvriers, mais finalement paternaliste tout simplement, mais finalement, c'est pour avoir la main mise sur eux. Et forcément, quand arrive cette espèce de phénomène féminin qui assume qui elle est, forcément, ça crée un désordre. Mais au fond de lui, il y a un désir qu'il n'assume pas. Et c'est ça qui est intéressant dans le film, c'est que finalement, cette liberté va déranger beaucoup de gens, finalement.
Oui, elle est très dans la précursion par rapport à son époque. Et c'est ce qui va amener aussi l'amour, progressivement. Vous avez choisi de travailler beaucoup sur les corps, en particulier celui de Nadia Tereskiewicz, qui interprète Rosalie. Vous avez fié la danseuse il y a quelques années. Le corps reste très important, très, très prégnant, parce qu'il y a une sensualité dans ses mouvements, dans ses déplacements.
Oui, l'idée, en fait, c'était de faire ressentir une sensualité là où on ne s'y attend pas. Je crois que c'est ça, la magie du cinéma. Et il y avait quelque chose que je voulais d'un nouvel érotisme, en fait. Et je pense que... que le voilà, c'est une des missions du cinéma aujourd'hui. Mais c'est vrai que enfin le poil souvent il est associé à quelque chose d'animal, de primitif, c'est la bestialité, c'est le monstre qu'on doit adopter en nous. Et ben moi j'ai voulu le montrer et je pense que il peut y avoir du beau n'importe où justement, et c'est à nous de, en tout cas moi en tout cas en tant que metteur en scène, d'essayer de chercher une nouvelle façon d'exprimer le désir. Et j'espère que le spectateur lui-même sera troublé par cette femme. Et c'est ça qui était intéressant chez Nadia, c'est que même avec une barbe, elle a une sensualité qui est très troublante, cette jeune femme. Et je pense que ce côté solaire participe aussi à ça. Il y a quelque chose comme ça de troublant chez elle. Et le corps, je le travaille aussi avec Benoît Magimel. Au début, c'est un homme détruit par la guerre. Donc, je le montre avec un corset. Donc parce qu'il a été blessé, il est meurtri, il croit plus en rien, il croit plus en l'amour, et finalement Rosalie va le mettre à l'épreuve, et c'est ça qui est intéressant, c'est que petit à petit les sentiments vont naître à travers un désir qui leur échappe, et c'est le désir des corps justement, où lui-même au début, d'ailleurs c'est pour ça que je voulais pas qu'ils se rencontrent avant le film. Je voulais que, vu qu'on tournait dans l'ordre chronologique, je voulais que petit à petit s'apprivoisent l'un et l'autre. Et c'est vrai que ça a été très dur pour Benoît Magimel au début, parce que Nadia, on a fait un énorme travail de réalisme où les poils sont collés un par un sur le corps pour faire comme une seconde peau. Donc on y croit vraiment. Et c'est vrai qu'au début, Benoît, il y avait un réel rejet. Et c'est normal, c'est humain.
À l'instar de son personnage.
Alors, exactement. Et du coup, petit à petit, bah, il va se laisser happer par... l'idée, c'était qu'au fur et à mesure du film, on en oublie cette barbe, finalement. Et qu'on ne regarde que l'intériorité de ces deux personnages à la fin.
Alors justement, vous avez décrit, c'était une de mes questions, comment vous avez travaillé avec vos comédiens, en particulier le couple principal, Benoît Magimel et Nadia Tarakevitch. Donc pour les autres comédiens, j'imagine que c'était différent comme approche.
Complètement. Nadia, déjà, il y avait un énorme travail sur le corps. On a mis 3 mois à trouver l'espèce de sculpture étrange et désirable qu'elle devait être. Ça a été très compliqué. On a travaillé des artistes, dont une jeune femme qui s'appelle Mélanie Gerbeau, qui est extraordinaire, qui est carrément une artiste, quoi. Où c'est ce que je vous expliquais, c'est collé poil par poil, c'est des peintures qu'on faisait, fallait trouver l'élégance de cette femme, la sensualité de cette femme, malgré ses poils. Donc il y avait une vraie recherche, donc ça, on a fait un vrai travail de corps avec Nadia. Benoît, on avait beaucoup travaillé aussi, on a beaucoup parlé, où je voulais qu'il arrive brisé, cassé en deux,
entravé
par son corset, tout ça, c'est où il fait tout le temps, limite s'il grince pas au début du film, quoi. Donc c'était très important, et je voulais pas je voulais vraiment pas qu'il y ait de contact entre eux avant le premier regard. Le premier regard que vous voyez dans le film entre eux, c'est vraiment le premier regard. C'est la première fois qu'ils regardent Nadia. Et ça, c'était important pour moi de filmer la vérité de ce moment.
Et la surprise aussi.
La surprise. Et par contre, les autres, j'ai une approche totalement différente avec Benjamin Biolay, Juliette Armanet, Anna Biolay, Guillaume Gouix, Serge Boson, tous ces acteurs, en fait, je voulais créer une famille autour de Nadia, bizarrement. Je savais qu'ils avaient tous une affinité les uns les autres, ils se connaissaient. Ça, au contraire, ils se connaissaient. Je savais que Nadia avait tourné dans le clip de Benjamin Biolay, que je savais que Benjamin aimait beaucoup Nadia. Il y avait ce côté-là, je savais que Juliette Armanet, Nadia estimait beaucoup Juliette, écoutait sa musique, et je savais que Juliette avait adoré Les Amandiers. Elle l'avait vu dans Les Amandiers. Et tout ça s'est fait dans l'idée de construire une atmosphère et
un microcosme.
Un microcosme, voilà, parce qu'on était isolés dans ce petit village en Bretagne et vraiment coupés du monde, parce que c'est très très peu desservi. Et voilà, et on s'est tous retrouvés pour raconter cette histoire, et je pense que ça a participé à la vérité du film.
Ah, Stéphanie dit justement, vous parlez si bien de votre film que vous avez anticipé encore sur une question. Le lieu, c'était pour moi un protagoniste fondamental. Il y a cette forêt avec ce cours d'eau, avec la luminosité. Le lieu, vous l'avez trouvé comment?
Alors en fait, donc mes premières recherches, c'était dans les Vosges, parce que Clémentine Delay, qui m'avait inspirée, venait des Vosges. Donc je suis allée dans les Vosges. Et puis finalement, je trouvais pas exactement. Il fallait trouver une usine. En 1870, avec un village attenant, il y avait plein de contraintes de distance. Et en fait, une fois de plus, le hasard a voulu, je cherchais sur Internet et je suis tombée sur un petit village en Bretagne qui s'appelle les Forges des Salles. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas possible que ça existe. J'ai voulu tout de suite rencontrer les propriétaires. Et une fois de plus, il y avait une vérité, les propriétaires. En fait, c'était leur famille qui était là depuis justement quand les forges existaient encore et marchaient encore et qui ont conservé le lieu intact depuis 1870. Donc, sans ce décor, je ne pouvais pas faire de film. Le film n'existait pas, puisque je n'avais pas les moyens de reconstituer ça. Donc, ça a été une véritable chance d'avoir ce lieu. Et en fait, j'ai tout de suite pensé à Tess de Polanski quand j'ai vu le lieu. Il y avait quelque chose d'étonnant en fait, la nature, la présence de la nature. Et comme c'est une industrie, les forges, on a besoin d'eau et de forêt. Donc c'est pour ça que la nature est très très impressionnante autour du lieu. Donc voilà, donc
Et
à
la
partir.
nature qui apporte une sensualité à Rosalie.
Ah, évidemment, parce qu'en fait, Rosalie, finalement, c'est son refuge. C'est-à-dire que très vite, elle va, évidemment, la liberté qu'elle engendre va déranger tout le monde. Elle va vite devenir donc le bouc émissaire. Et finalement, la nature, c'est l'endroit où elle peut se réfugier, tout simplement, où elle s'y sent bien. Et c'est une fois de plus la complexité du personnage. C'est qu'à la fois, c'est un personnage très féminin, très apprêté, toujours délicate, très féminine, tout simplement, avec sa coiffure sophistiquée, etc. Et puis en même temps, ce besoin d'aller s'enfuir dans la nature pour retrouver cette animalité que nous sommes tous d'ailleurs, du coup, que nous avons tous en tout cas. Donc tout ça a été très important et surtout, bon voilà, j'ai pas eu les moyens. Voilà, c'est mon deuxième film, donc il me fallait des belles lumières tout de suite. Il y avait déjà tout sur place. Donc la forêt qui est autour du site, elle était extraordinaire.
Et quel travail avez-vous fait sur la photographie?
Oh ben ça, de toute façon, moi j'adore. Voilà, c'est un grand. J'adore travailler toute la photographie, comme dans mon premier film. Donc là, il y a eu un vrai travail que j'avais fait en amont sur les matières, les recherches. Mais une fois de plus, j'ai respecté le lieu aussi. Le café dans lequel je tourne, finalement, c'était la cantine des ouvriers des forges. Donc j'ai très peu transformé, finalement. Et en fait, je n'ai fait que sublimer ce qui existe. Mais en fait, et de ne pas tricher. Il y a quelque chose de très brut en fait dans le film. Donc, et la photographie, ben, en fait, c'est la lumière naturelle parce que j'avais très peu de moyens. Donc, je pouvais pas éclairer énormément le film. Et en fait, il s'avère que c'est la plus belle, la lumière naturelle. Donc voilà.
Qui sublime d'ailleurs la nature, le
Oui,
décor.
ben, le décor, et j'ai eu beaucoup de chance, une fois de plus, mais ça fait partie de la magie des films. Moi, je crois à ça, c'est que on était en plein hiver, et à chaque fois qu'on devait sortir, on espérait ne pas qu'il ne pleuve pas, parce qu'il pleuvait souvent, et en fait, à chaque fois, il y a eu un rayon de soleil. Il y a même un arc-en-ciel dans le film. Il y a même un arc-en-ciel quand elle est de dos, il y a un plan, on le voit à peine, et il y a ce début d'arc-en-ciel dans le moment où elle découvre la jouissance. Je me suis dit, mais c'est pas possible d'avoir
Les dieux du cinéma étaient
Ouais,
avec vous.
ouais, 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 ouais. Heureusement d'ailleurs, parce que le film a été très compliqué, mais j'ai eu ça avec moi, ouais.
Il était compliqué au niveau des recherches en amont.
Pas du tout les recherches, vous savez, maintenant on trouve tout. Il y a une grande iconographie sur les femmes à barbe de l'époque, etc. Tout ça, c'est pas ça. La difficulté, c'est de convaincre pour que cette histoire soit sur un écran, tout
Voit le jour.
simplement. C'est voit le jour. J'ai été victime moi-même des a priori que suscite le sujet. Mais c'est bien, il faut le voir pour le croire, donc tant mieux, il faut aller le voir. Mais en tout cas, oui, ça a été très complexe. Et ce qui est normal, en fait, ce qui est normal, le sujet fait peur. Mais justement, le rôle du cinéma, c'est d'essayer de trouver du beau là où on ne s'y attend pas. Voilà, et de la sensualité. J'espère que le spectateur sera troublé par cette femme.
En tout cas, c'est très esthétique au niveau du résultat. Vous parlez d'a priori, Stéphanie Di Giusto. À l'époque, les a priori, c'était mettre ces gens différents, femmes à barbe ou difformes, dans les foires, et c'était des bêtes de foire, point final. Et donc, en fait, ce destin est totalement iconoclaste par rapport à l'époque.
C'est ça qui m'a attirée dans le sujet, c'est qu'elle échappe à ça. Et que dans toutes mes recherches iconographiques, j'ai même le journal d'une femme à barbe en 1870 écrit à la main, la plupart de toutes ces personnes finissent dans des foires. Et c'est ça que je trouvais beau chez Rosalie, comme Clémentine Delay. C'est des femmes qui ont essayé d'échapper à ça. Et c'est ça qui était beau et original dans le destin, parce qu'on s'attend justement à voir cette pauvre femme dans une foire. Elle n'a aucune raison d'y être.
Et comment avez-vous écrit? Est-ce que vous avez déjà écrit en pensant à tous ces comédiens? Ou c'est venu ultérieurement?
Alors non, j'ai déjà écrit. J'ai écrit avec Sandrine le costumeur. J'ai écrit l'histoire de Rosalie. Et après... Et après j'ai pensé aux comédiens. Non, j'avais pas d'image en tête, c'était trop complexe. Il fallait que je la trouve, il fallait que je la crée en vrai, cette Rosalie. C'est pour ça que je vous ai expliqué mon processus de création, c'était de faire des essais avec des femmes et un costume et une barbe. Donc pour donner à voir, j'avais besoin de tester ce que ça donnait en fait. Il y a que comme ça qu'on pouvait créer ce personnage. J'avais pas de, je pouvais pas me dire ça. Il y a certaines comédiennes, ça n'allait pas du tout, la barbe n'allait pas du tout, donc je ne pouvais pas penser à une comédienne. Il fallait vraiment la créer après l'écriture.
Voilà. Même s'il s'agit de grimer la comédienne, on imagine que pour certaines comédiennes, certaines jeunes femmes, c'était difficile d'assumer ce rôle.
Mais c'est normal, hein. C'est complètement humain. Y en avait qui se grattaient, se regardaient, il y en a qui ont fui, qui se sont dit « mais non, mais je peux pas, c'est impossible, j'y arriverai pas ». Et c'est complètement humain de se voir de cette manière-là. C'est pour ça où Nadia, elle est étonnante, hein, parce que... mais il n'y a pas eu une demi-seconde d'hésitation. Mais même pas... c'était évident pour elle. Et c'est ça qui m'a beaucoup touchée. Et qui fait que je n'ai pas hésité une seule seconde après ces essais.
Est-ce qu'on peut aussi parler d'un élément important, la musique?
Oui, la musique. Alors là, bizarrement, contrairement à la danseuse où j'avais déjà toutes mes musiques avant le tournage, là, je ne voulais écouter que les respirations de mes acteurs. J'ai été dans quelque chose où, au début, je ne voulais pas du tout de musique dans le film d'ailleurs. Pas du tout, du tout, du tout. Tout le film, on l'a monté où à chaque fois, j'ai eu la chance d'avoir une grande monteuse qui s'appelle Nassim Rodji. Et elle est... Il y avait... on était dans un travail de minutie sur les corps, d'entendre... D'ailleurs, c'est très beau parce qu'au début, on entend beaucoup la respiration de Benoît et Nadia n'existe pas dans son côté au début où elle joue la jeune femme très vierge, très frêle, etc. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'elle s'assume, on va entendre sa respiration, Nadia. Et ça, c'était très intéressant. Et en fait, la musique est venue... j'arrivais pas, il n'y avait aucune musique qui n'allait, et une fois de plus une rencontre d'une jeune femme incroyable qui s'appelle Anya Rani, j'écoute l'album de piano d'Anya Rani et tout d'un coup je me dis mais c'est qui, et je vois sur YouTube sa vidéo sur scène où elle est au milieu de trois pianos de dos et je me dis mon Dieu qui est cette jeune femme incroyable surdouée au piano, et en fait c'est elle et ça devait être elle, et elle a fait voilà, donc là, les trois quarts de la musique viennent de ses albums, et elle a créé quelques musiques pour le film. Il y a aussi une musique de Max Richter, mais globalement les trois quarts de la musique du film sont interprétés par Anya Rani. Voilà.
Alors Stéphanie Di Giusto, on doit malheureusement vous quitter. On comprend que c'est une chorégraphie au sens large du terme. La chorégraphie reste proche de vous. Vous êtes ici pour le Festival du film francophone de Bienne. Vous étiez à Angoulême également. Jusqu'à présent, le public est au... Oui, aussi. Mais bon, Cannes, c'est la Mecque. Hein. On cite que les grands festivals. Et jusqu'à présent, le public est au rendez-vous.
J'ai l'impression, j'ai très peur, parce que je sais que le sujet fait peur et ça me fait tellement plaisir de voir les gens, même les gens qui me disaient, il y a même des gens qui viennent me voir en me disant je ne savais pas un peu ce que je faisais, j'avais un peu peur, etc. Mais ça m'a touchée, donc ouais, ça me fait plaisir d'entendre ça.
Alors, bon séjour à Bienne.
Merci.
Merci d'être venu.
Merci à vous.
On vous attend à nouveau avec votre comédienne et bon succès. Merci, Stéphanie Di Giusto.
Merci à vous.